France Théo RFI, il est 18h09 à Paris, bientôt 18h10. Merci beaucoup de nous écouter. Et tout de suite, c'est Mardi Politique.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Bruno, je reviens pas, ça fait 6 ans.
6 ans quoi ?
Radiovision, le concours de chansons radio. Alors, si vous êtes chanteuse ou chanteur, inscrivez-vous sur radiovision.fr.
Non, et t'as raison Sonia, mais vous n'avez que jusqu'au 18 avril pour tenter de gagner votre place et passer à la radio.
Alors, inscrivez-vous dès maintenant sur radiovision.fr.
Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Hier, on était en train de parler de la programmation de la salle Camille Lepage dans la maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin. Demain, on sera avec le CCJC de Muret-Rainier pour parler du festival Couleur Chanson. Et jeudi, on sera avec WeForge. Et nous, ce soir, on sera avec la médiathèque de l'Art en Loup pour parler cinéma et plus précisément de la fête du court-métrage. Ça arrive bientôt, ça commence le 19 mars et ça sera jusqu'au 25. Alors, il y aura plein de projections dans différents lieux de la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. Pour en parler, on sera avec Aurélie Dernoncourt, responsable de la médiathèque, qui est venue accompagnée de deux étudiants du MFR, de la MFR, pardon, du Cèdre, Corentin et Suzanne, qui ont participé à l'organisation de ce festival. Ce soir, on écoutera aussi un podcast des indépendantes angevines et on sera aussi avec toi, Charles, pour l'édito impro. Bonsoir.
Salut, salut Noël, salut tout le monde, comment ça va ?
Ça va très bien, de quoi on va parler ce soir ?
Je vous parle de mon plus grand blocage en match d'improvisation. Je vous donne là mon gros talon d'Achille.
On laisse le suspense pour la deuxième partie d'émission où on écoutera tout ça. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette, sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va faire un petit point sur l'actualité locale avec toi, Emilien. Bonsoir Emilien.
Bonsoir Nolwenn.
Le musée Espace Air Passion intègre deux nouveaux avions dans sa collection.
Dans un communiqué transmis le 4 mars, le musée aéronautique situé dans la commune de Marcé annonce avoir reçu entre décembre et février deux avions d'une grande rareté. Le DHC Chipmunk Mark 20, un avion d'entraînement militaire entré en service dans la Royal Air Force en 1947 et fabriqué jusqu'en 1961, est aujourd'hui inscrit au patrimoine aéronautique mondial. Cet avion, restauré et remis en vol depuis 2018 par le passionné d'aviation Nigel Stevens, a été légué au musée le 28 février. Le second engin est l'AR MACCI MB-308, un avion d'école italien construit à la fin des années 40. Sur les 206 appareils construits, seuls deux sont exposés à ce jour, l'un en Italie et l'autre désormais au sein du musée Angevin depuis décembre 2024. Sur ces 3500 m2, le musée Espace Air Passion compte plus de 180 avions et planeurs ayant marqué l'histoire de l'aviation, dont 4 classés monuments historiques.
Les syndicats de l'aide sociale à l'enfance appellent à manifester.
Dans le cadre du vote du budget de l'année 2025 par le conseil départemental de Maine-et-Loire, les syndicats CGT Santé sociaux et forces ouvrières de l'action sociale appellent à la grève et à la manifestation les mercredis 12 et jeudi 13 mars. Dans un communiqué, les syndicats dénoncent un budget 2025 aux conséquences désastreuses, fin de citation, pour l'aide sociale à l'enfance et à sa protection. Le département avait lancé un appel à projet pour répondre aux critiques sur le placement éducatif à domicile jugé insuffisamment sécurisé pour les enfants. Cet appel à projet avait été rapidement rejeté par les syndicats qui y voyaient comme seul objectif de réduire les coûts de la protection de l'enfance, fin de citation, craignant des licenciements parmi les professionnels du secteur. Ce budget qui sera voté le 12 et 13 mars sera donc marqué par des mobilisations devant le siège du département situé boulevard Foch à Angers.
À Angers, justement, un suspect placé en détention pour agression sexuelle.
Le dimanche 9 mars, un homme âgé d'environ 30 ans a été incarcéré, soupçonné d'avoir agressé sexuellement au moins 4 femmes dans le centre-ville. Il aurait sévi dans la nuit du 1er au 2 mars, repérant d'abord ses victimes avant de passer à l'acte. Par surprise, il aurait saisi la poitrine ou les parties intimes des jeunes femmes. Le vendredi 7 mars, les policiers angevins ont interpellé le mis en cause, identifié notamment grâce à un important travail de recoupement des différents éléments recueillis sur 3 agressions successives, indiqué le procureur Éric Bouillard. Une quatrième victime est actuellement recherchée par les services de police. Appelée à témoigner, elle ne s'est toujours pas manifestée. Cette mesure privative de liberté a été prise dans l'attente de son jugement, prévu le 23 avril dans le cadre d'une comparution immédiate à délai différé.
Et juste avant d'accueillir notre invité du soir, une petite annonce. La compagnie des passeurs de l'impalpable vous proposera son spectacle L'Enquête 1920. Ça sera le 18 mars au Folies Angevines à 20h. Et nous, on passe tout de suite à notre sujet du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je le disais tout à l'heure, donc ce soir on parle de la fête du court-métrage, un événement national auquel la ville de Saint-Barthélemy participe pour la deuxième fois. C'est un événement qui est organisé entre autres par le village Pierre Rabhi, mais aussi des étudiants de la MFR du Cèdre. Et ce soir on est avec deux d'entre eux, Corentin, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et Suzanne, bonsoir.
Bonsoir.
C'est aussi organisé en collaboration avec la médiathèque de la ville. Bonsoir Aurélie Darnoncourt.
Bonsoir.
Vous êtes donc responsable de la médiathèque. Alors tout à l'heure, on parlera plus précisément de la programmation, des animations et tout ça. Mais si d'abord on se penche sur l'événement en lui-même, pour nos auditeurs qui connaîtraient pas forcément, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter brièvement l'événement de la fête du court-métrage, peut-être Aurélie ?
Eh bien, c'est un événement national, en effet, pour mettre en valeur le court-métrage en France. Donc, il y a des animations qui se passent, des projections qui se passent dans un peu partout, à partir du 19 mars et jusqu'au 25. Et la médiathèque, le village Pierre Rabhi et plusieurs structures de la ville et associations ont souhaité y participer pour mettre de l'échange dans ces projections. La MFR participe également à toutes les projections.
Et justement, quels sont les différents partenaires qui sont impliqués dans cet événement ? Vous êtes plusieurs, j'imagine ?
Oui, tout à fait. Alors, le village Pierre Rabhi, la médiathèque, mais aussi Échange et Solidarité, qui est une association bartholoméenne. L'ESEP également va participer. Il va y avoir pas mal d'interactions avec les écoles, avec le collège de la Venaiserie, avec les écoles primaires de Saint-Barthélemy et aussi maternelles.
Et parmi donc les personnes qui participent, il y a les étudiants de la MFR du Cèdre. Corentin, quel a été votre rôle, vous, dans l'organisation de cet événement ?
Alors notre rôle, il est assez spécial parce que ça rentre dans le cadre de notre formation. Donc nous, Suzanne et moi, nous sommes en BTS DATR, donc développement et animation des territoires ruraux. Ce BTS, il a pour objectif de valoriser les territoires ruraux. Alors le BTS est en cours de changement sur les prochaines années. Donc ça ne s'appellera plus territoires ruraux parce que Saint-Barthélemy, c'est pas réellement un territoire ruraux, mais ça sera plutôt développement et animation des territoires. Le projet de la fête du court-métrage, ça rentre dans le cadre du M58, qui est un module de notre formation, qui est l'événementiel. Et donc, nous sommes en partenariat avec le village Pierre Rabhi, justement.
Et concrètement, Suzanne, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez organisé des actions particulières ?
Alors oui, nous notre objectif c'est principalement de diffuser et d'animer. Donc on va principalement proposer des temps d'animation après la diffusion des courts-métrages en lien avec les thématiques que l'on aura choisies en amont avec tous nos partenaires.
Et maintenant que j'ai l'impression que ça avance un petit peu, vous êtes rendu à quelle étape dans la préparation de cet événement ? Qu'est-ce qui vous reste à faire Corentin, Suzanne ? Corentin.
Eh bien à vrai dire, on est quasiment à la fin, ça arrive la semaine prochaine. Donc là, on est plus sur l'organisation logistique, donc tout ce qui va être préparation du matériel qu'on va avoir à utiliser pendant la fête du court-métrage, vidéoprojecteur, mais aussi pour que ce soit assez un espace assez cocooning. On aimerait que tout le monde se sente bien, donc on va prévoir du matériel pour justement cet événement.
Suzanne, est-ce qu'il y a des défis auxquels vous avez pu être confrontée, des difficultés, des choses qui étaient moins faciles à faire peut-être dans la création de ces actions?
Alors, les difficultés principales, je pense que c'est surtout au niveau des partenaires, c'est pouvoir rassembler tout le monde, mettre des dates où tout le monde est disponible, avoir aussi du matériel et humain. Et voilà, donc ça, c'était le plus difficile, je pense.
Aurélie, c'est une vraie volonté comme ça de faire participer plein de monde et aussi des étudiants qui puissent organiser ce festival?
Alors le village Pierre Rabhi a en effet cet objectif de vraiment faire circuler les personnes sur le territoire bartholoméen. Donc la médiathèque évidemment y participe assez également. Mais oui, c'est vraiment une volonté de croiser les publics, de permettre à des étudiants aussi de voir la complexité de la mise en place de ce genre d'animation, parce qu'en effet, il y a beaucoup de partenaires, donc forcément des contraintes multiples et puis des volontés aussi multiples. On n'a pas obligatoirement les mêmes envies à la médiathèque que à la résidence Bonnaire, où il va y avoir une projection, que dans les écoles. Donc la multiplicité de ces partenaires donne aussi la richesse hein, des échanges, mais donne aussi les difficultés qui sont liées.
Et comment vous espérez que cet événement ça favorise la découverte du court-métrage un petit peu? C'était une vraie volonté de mettre ça en avant à Saint-Barthélemy d'Anjou. Il n'y avait pas d'événement encore spécialement dédié au court-métrage?
Alors il y a eu longtemps un travail au THV autour du court-métrage, et une association venait passer des courts-métrages. C'est vrai que c'est un média qui est pas obligatoirement très diffusé, pas beaucoup dans les cinémas finalement. Et puis à la médiathèque, nous on a des courts-métrages évidemment pour dans notre fond de DVD. Mais c'est vrai que les courts-métrages sont un concentré de cinéma qui permet à des gens peut-être un petit peu réticents à aller dans des salles obscures à venir voir ces petits temps de cinéma qui s'adaptent à des publics âgés ou à des jeunes aussi. Donc vraiment les programmes ont été choisis en conséquence, donc ça permet aussi de traiter des sujets un petit peu décalés, parce que souvent le court-métrage a cette originalité d'être un petit peu décalé, coup de poing souvent, et dans les projections qu'on va voir, il va y avoir des courts-métrages comme ça qui peuvent un petit peu gêner ou surprendre.
Et justement, comment s'est déroulée la sélection des films? Est-ce qu'il y avait des critères particuliers pour participer à ce festival, à cette fête? Corentin ou Aurélie, je ne sais pas.
Alors oui, on a la fête du court-métrage, donc c'est un événement qui est national, donc il y a une plateforme qui est réservée aux organisateurs de la fête du court-métrage, dont le village Pierre Rabhi fait partie, et on a pu justement observer tous les courts-métrages, donc il y avait beaucoup, beaucoup de courts-métrages, donc beaucoup de sélection à faire. On en a sélectionné plusieurs, on en a regardé, on a vu les synopsis qu'il y avait, et on a justement décidé tel sujet était bien pour tel public. Mais c'est assez difficile parce qu'il y a certains partenaires qui ont un public spécifique, d'autres non. Donc il fallait vraiment qu'on s'adapte au maximum au public qu'on avait en face de nous. Enfin, qu'on va avoir en face de nous.
C'est une vraie mission, ça, de pouvoir s'adapter à son public et de bien choisir. Suzanne, Aurélie et Corentin, vous restez avec nous. On va faire une petite pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute Home de Wex Taylor.
I wanna go home. I wanna go home. Go home.
Sur le 101.5 FM et vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est avec Aurélie Dernoncourt, responsable de la médiathèque de la Renloue, et Corentin et Suzanne, étudiants à la MFR du Cèdre. Alors tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'organisation de la fête du court-métrage, mais maintenant, si on se penche un peu plus dans le concret, un peu plus si on parle de la programmation, tout à l'heure, on disait qu'il y avait une grande diversité de genres, que fallait adapter à chaque public le film, le court-métrage. Quelle thématique, Corentin, va pouvoir retrouver? Est-ce qu'il y a des grandes thématiques qui ressortent?
Alors, il n'y a pas vraiment de grandes thématiques, parce que du coup, quand on regarde les courts-métrages qu'il y a, la liste, il y a des programmes. Donc en fait, c'est différents courts-métrages qui sont choisis, qui ont forcément un lien en commun, mais qui ne sont pas vraiment... Par exemple, je pense à Avec ou sans mots, c'est la thématique, mais est-ce qu'on peut vraiment expliquer le... En fait, il y a, sur ce programme-là, il y a 5 courts-métrages. Et ces 5 courts-métrages-là parlent de la thématique Avec ou sans mots, mais c'est une thématique qui est tellement large que c'est assez difficile à entendre et à expliquer, mais à découvrir pleinement.
Et donc, il y a des projections qui sont destinées à un certain public, par exemple les enfants ou les seniors, les professionnels. On peut peut-être détailler l'un d'entre eux si on parle, je ne sais pas, par exemple des spectacles pour les enfants, enfin des courts-métrages pour les enfants. Suzanne, il y en a quelques-uns?
Oui, il y en a quelques-uns. Donc, par exemple, celui qui nous a le plus touché, c'est Mon papy s'est caché. C'est son titre. Et en fait, c'est vraiment l'image de la mort, en fait, et des âmes qui est un petit peu imagée et forcément un peu infantilisée pour les enfants. Et donc, en fait, c'est super parce que ça amène une image différente de la mort et de ce qu'on peut en avoir d'habitude.
Et ces séances, elles seront suivies de débats, de discussions. Est-ce qu'il y aura des choses après?
Alors pour les enfants, on n'a pas prévu forcément d'animation parce que notre temps est assez restreint puisqu'après ils doivent retourner à l'école. Mais par contre, on a des évaluations avec des smileys, des choses comme ça qui devront colorier afin que nous derrière on ait un bilan en fait de notre animation et de notre diffusion. Après pour les autres publics, donc ça dépend un petit peu, mais par exemple pour les seniors, ce sera vraiment tourné sur des débats, et ensuite pour les familles, ça va dépendre. Des fois il y aura des animations dites mouvantes, donc on leur posera des questions, ils devront aller à tel endroit dans la pièce, donc voilà.
Et donc c'est vous qui avez construit toutes ces animations, c'est ça, Corentin?
Alors, en partie, oui, parce qu'on a une place qui est assez spéciale dans la fête du court-métrage, parce qu'on l'organise, on organise quasiment tout de A à Z, mais grâce à l'aide de nos partenaires, justement, on peut réfléchir à des animations. C'est vraiment un travail collaboratif entre nous, notre école, le village Pierre-Rabhi et les différents partenaires.
Et est-ce que vous avez un film, un court-métrage, donc, coup de cœur qui vous a particulièrement marqué, Corentin?
Un court-métrage coup de cœur, alors là...
Ou celui que vous avez le plus apprécié, si vous avez pu en voir quelques-uns?
Je n'ai plus du tout le titre du court-métrage, mais c'est une histoire où c'est un arbre qui part, qui marche, et qui découvre la vie des humains. Et j'ai trouvé ça très, très beau. C'est très enfantin, mais c'est très touchant, la vision que peut redonner un court-métrage sur nos sociétés actuelles.
Et Suzanne, peut-être que tu en as un court-métrage favori?
Un court-métrage toute la classe a bien aimé. Je dirais que c'est le court-métrage 13 euros, puisque il parle un petit peu. Alors comment expliquer ça? C'est une personne en fait qui va au restaurant et qui ne veut pas se faire payer le restaurant et qui et donc en fait c'est toujours une personne qui doit payer pour les autres. Donc voilà, c'est un court-métrage qu'on a bien aimé avec la classe.
Aurélie, est-ce que vous pensez justement que ce format de court-métrage, c'est un bon format pour faire passer des messages, pour sensibiliser le public, parce que justement c'est court?
Oui, je pense que c'est en effet, c'est, ça, et puis ça permet la discussion derrière, puisque justement c'est court, c'est coup de poing, souvent c'est du concentré d'émotions. Donc oui, c'est vraiment un média particulièrement intéressant. À la médiathèque, nous on a décidé de passer en haut de l'affiche avec des courts-métrages notamment autour du sida, de la légalisation de l'avortement, donc des sujets qui posent question et qui mènent au débat.
Et des sujets qui interrogent. Toi, Emilien, tu es très calé cinéma. Est-ce que le court-métrage, c'est quelque chose que t'aimes bien regarder?
Totalement, totalement. Le court-métrage, c'est vraiment très intéressant, comme on l'a dit justement, pour des messages qui peuvent être très forts des fois. Après, je dirais que je regarde pas généralement des courts-métrages. Par contre, pour le festival Premier Plan, j'en avais pu en voir quelques-uns. Et c'est justement ça. Alors, ça dépend des fois. Comme ça peut être très étudiant des fois, donc on comprend pas forcément le message. Comme d'autres fois, enfin, je dirais que c'est tellement bien fait, tellement bien réalisé, qu'on a une puissance derrière qui dépasse en fait des fois les longs métrages largement quoi.
Et donc si on revient Corentin et Suzanne à la préparation de cet événement, qu'est-ce que vous avez pu en tirer vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté, Suzanne?
Ça nous a vraiment aidé déjà parce que on a pu découvrir comment on faisait de la communication, puisqu'on a beaucoup communiqué, que ce soit par affiche, par flyer. Donc vraiment niveau communication, ça nous a quand même bien aidé. Et puis surtout pouvoir être soudés avec un groupe de 10, parce qu'on travaille avec notre classe, donc nous sommes 10. Et donc ça nous a appris à rester soudés, à se répartir les tâches. Ça nous a quand même bien appris.
Vous restez avec nous, Aurélie, Corentin et Suzanne. On va écouter tout de suite un podcast des indépendantes angevines. On va partir à la découverte de Sarah qui s'est lancée en pâtisserie.
Les indépendantes angevines, la chronique des femmes qui ont sauté le pas de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous parle de Sarah. Sarah a 35 ans et est pâtissière. Cela fait 3 ans et demi qu'elle s'est lancée à son compte et a fondé Colette Pâtisserie. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà croisée sur son vélo ou goûté une de ses délicieuses créations. Sarah n'a pas toujours été auto-entrepreneur, ni même pâtissière. Son projet initial était de devenir professeure des écoles. Elle a eu son bac en 2007 et a poursuivi des études universitaires en décrochant d'abord une licence psychologique suivie d'un master en enseignement. Bien qu'elle réussisse les épreuves écrites du concours, elle ne valide pas l'oral. Ce n'est pas un obstacle majeur, car parallèlement, elle occupe un poste en contrat de service civique au sein de l'association La Fève à Poitiers, où elle accompagne des jeunes issus de quartiers prioritaires. Ses premiers pas dans la vie active sont une expérience humaine très forte pour Sarah. Une expérience qui l'a aidée à sortir de sa coquille et lui a surtout fait prendre conscience qu'elle souhaitait faire autre chose. Ça tombe bien, l'association a justement proposé à Sarah un emploi à temps plein en CDD, à La Rochelle en tant que gestionnaire de projet. Cependant, après 3 ans, elle ressent le besoin de changement. La vie de bureau où elle passe la majorité de son temps devant un ordinateur et en réunion ne lui convient plus. Elle décide donc de refuser le CDI qui lui est offert et s'envole pour le Kenya pendant 6 mois, où elle s'engage dans une mission pour une association écologique. Ce sera une expérience totalement dépaysante. Cette aventure lui offre également l'opportunité de prendre du recul et de réfléchir à ses aspirations pour l'avenir. Elle ressent le désir de se tourner vers des activités plus manuelles. Et pourquoi pas la pâtisserie? Depuis son adolescence, elle a toujours eu une passion pour ça. Affaire à suivre. De retour en France, Sarah reprend la gestion de la ruche, qu'elle avait déjà en parallèle de ses missions à l'association. Ah oui, c'est à ce moment-là que je vous perds. Bon, je fais une pause. La ruche fait référence au concept de la ruche qui dit oui. Une entreprise issue de l'économie collaborative qui met en relation les agriculteurs et les transformateurs alimentaires avec une plateforme en ligne et des points de vente physiques, donc les ruches, pour faciliter la vente en circuit court. Bon, alors j'en étais où? Ah oui, Donc, Sarah revient du Kenya, reprend la ruche et réalise un bilan de compétences qui la conforte dans son projet d'être pâtissière. C'est parti! Elle intègre un CAP en alternance pendant un an, puis en 2018, son diplôme en poche, travaille dans un coffee shop. C'est la période du Covid qui donne l'impulsion à Sarah de se lancer. Son compagnon est muté à Angers et elle sent que c'est le moment de créer son entreprise. C'est assez clair dans sa tête. Elle préfère commencer petit. L'idée du vélo arrive vite. C'est un concept sympa, novateur et écologique. Son expérience à la ruche l'a inspirée à s'engager dans le circuit court, en collaborant avec des partenaires et en utilisant des produits locaux. Elle tient à cœur de partager ses valeurs liées au bien manger et au locavorisme, tout en veillant à proposer des produits accessibles à tous à un prix équitable. Suite à un accompagnement de 6 semaines à la BGE, Colette voit le jour en janvier 2021. Pour Sarah, tout s'imbrique parfaitement. Ses valeurs, ses aspirations et son engagement. Elle est convaincue que seul l'entrepreneuriat pouvait lui offrir cette harmonie. Elle désirait créer quelque chose qui lui ressemble, qui lui soit propre et aspirer à l'indépendance. Pour elle, l'entrepreneuriat implique également de bien s'entourer et de bénéficier du soutien de son entourage. D'ailleurs, son petit conseil d'entrepreneur, ne pas oublier qu'il n'est pas possible de dire oui à tout et qu'il est essentiel de prendre du temps pour soi, surtout si on veut que ça dure. Vous pouvez retrouver Sarah, son vélo et ses douceurs. Deux saisons, elle s'y engage. D'ailleurs, en ce moment, vous pouvez goûter les muffins aux prunes sur le marché de la Place Lafayette à Angers ou alors dans certains salons de thé. Mais vous pouvez aussi la retrouver sur son compte Instagram, Colette Pâtisserie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire inspirante d'entrepreneuriat au féminin.
Les indépendantes angevines que vous pouvez retrouver dans 2 semaines ou alors sinon vous pouvez toujours réécouter les podcasts sur le site internet de Radio G dans l'onglet Podcast Plus. Alors vous êtes toujours à l'écoute de Topette et on est toujours accompagné par Aurélie Dernoncourt et Corentin et Suzanne de la MFR du Cèdre. Tout à l'heure on parlait de la fête du court-métrage, mais à Saint-Barthélemy d'Anjou il se passe pas que ça, il y a aussi plein d'autres actualités. Aurélie, quels sont les prochains événements phares qu'on pourra retrouver notamment à la médiathèque?
Eh bien le mois de mars sera riche en rencontres d'auteurs. On va accueillir Mathieu Gargallo, qui est connu sous le nom de Titôme, qui est un scénariste de bande dessinée. Il a fait des scénarios pour Game Over, Les Lapins Crétins notamment. Et donc il viendra faire un atelier rencontre qui permet de découvrir ces petits trucs pour nous faire rire. Donc voilà, c'est une rencontre en forme d'expérimentation. Et puis on va rencontrer l'auteur Claire Vezin dans le cadre du prix Sésame, qui est une autrice qui est une jeune autrice puisque c'est son premier roman, et qui va nous parler de son roman autour d'un hôpital de banlieue, qui est un roman social absolument passionnant, qui permet de prendre conscience du naufrage de l'hôpital en banlieue.
Et c'est important pour vous de proposer des rencontres littéraires comme celle-ci avec Claire Vezin à la médiathèque?
Oui, on en fait très régulièrement, et rencontrer des créateurs, je pense que c'est vraiment très important dans la vie d'une médiathèque. C'est comprendre leur motivation, le processus de création, et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur en effet.
Et si on revient à l'atelier BD avec Mathieu Gargallo, pourquoi l'avoir choisi? C'est l'univers artistique qui vous a marqué de cet homme?
Il est scénariste. Bah, on aime bien accueillir des auteurs de bande dessinée. On en a accueilli pas mal, et c'est toujours un plaisir de comprendre comment ils travaillent. Et c'est vrai que un auteur jeunesse, puisqu'il écrit principalement pour la jeunesse, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même un condensé de leur travail. Il faut être efficace, mais en même temps drôle, efficace dans la narration. Et vraiment, je pense que c'est passionnant.
Et à qui va s'adresser cet atelier? Ça sera un atelier tout public ou pour un public bien particulier?
Oh non, c'est tout public, mais c'est pour les plus jeunes en fait.
Et qu'est-ce qu'on fera durant cet atelier? Est-ce que ça sera des dessins, de l'écriture?
C'est plutôt de l'écriture. Ils vont faire des strips, donc des trois cases pour faire une petite action et comprendre les mécanismes de la bande dessinée et de l'humour.
On leur donne rendez-vous du coup le 26 mars oui. Et le 29 après vous allez accueillir alors Alain Jacob Zone pour une conférence je crois sur l'histoire des Juifs en Anjou pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est un historien angevin qui est spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et notamment de la déportation des Juifs. Et donc il viendra nous parler, c'est une réédition d'un ouvrage qu'il avait écrit il y a quelques années et qu'il a amendé. Et donc à cette occasion, on l'accueille pour la première fois chez nous et il viendra nous parler de l'histoire particulière des Juifs en Anjou et de leur trajectoire.
C'est des sujets qui intéressent, qui interrogent peut-être particulièrement les Angevins.
Bon, je pense que c'est assez universel. Pas simplement celle l'histoire des Juifs, mais l'histoire de manière générale permet de nous éclairer. Et je pense qu'il faut pas en faire abstraction.
Est-ce qu'il y aura d'autres événements qui sont prévus dans les semaines à venir peut-être ou au début du mois d'avril sur lesquels vous souhaitez particulièrement mettre l'accent?
Alors on a plein d'animations hein, en dehors des rencontres d'auteurs, mais c'est vrai qu'on a les traditionnelles histoires sous la couette qui se font toujours juste avant les vacances. Et à 20h, les enfants peuvent venir avec leur pyjama, leur couette, tout ce qu'ils veulent pour s'endormir devant des histoires. En général, ils s'endorment pas d'ailleurs, mais c'est un moment et un rituel très particulier à la médiathèque.
Et justement, si on veut s'inscrire à cette conférence, à l'atelier BD par exemple, est-ce qu'il y a besoin de réserver sa place ou pas?
Oui, toujours oui. Oui. Il faut réserver sa place auprès de la médiathèque, soit en nous téléphonant, soit en venant, évidemment.
Eh bien, vous restez avec nous, on redonnera justement toutes les informations pratiques en fin d'émission. Et on va maintenant passer à l'édito impro avec toi, Charles.
L'édito impro de Topette. Avec Charles.
Salut Nolwenn, salut les copains, salut les improvisants angevins. Aujourd'hui, je vous fais part d'une de mes plus grandes incapacités. Et ça commence bien. Hein? Buggy sur le mot incapacité, ça c'est être un incapable. Donc bref, donc je vous présente ma plus grande incapacité en match d'impro. On en a parlé en teaser tout à l'heure. J'ai un gros blocage, les gens, à faire... des accents. Principalement parce que moi, j'ai pris perpète avec le mien, mais je vous l'avoue, j'arrive pas à en faire d'autres. On demande souvent, est-ce que Charles, t'es capable de faire l'accent français? Et la réponse que je dis tout le temps, c'est non. Et je vous l'avoue, là, les copains, ensemble, autour de la table, c'est un coming out, c'est surtout pour m'acheter la paix. Ça m'évite de devoir faire le singe savant devant des gens qui me regardent comme si je m'apprêtais à jongler avec des sabres. Tout ça pour finir par une prestation décevante et pour moi et pour mes interlocuteurs. Parce que pour eux, pour mes interlocuteurs, je suis le cirque qui est de passage. On en croise rarement des Québécois à Angers. C'est chouette, puis en plus, paraît qu'on est sympa. En plus, ça ramène les gens à leur lune de miel au Canada où ils en ont profité pour visiter leur cousin Sylvain qui a fait des études là-bas et qui a rencontré une Canadienne qui s'appelle Mireille et qui était donc sympa et tout. Bref, tout ça, c'est lié à un truc hyper positif. Mais pour moi, il n'y a pas un jour où on ne me parle pas de mon accent. Et en quoi ça me dérange? Je me suis vraiment posé la question. L'idée, c'est pas de faire un coup de gueule. Je m'interroge vraiment sur pourquoi ça vient me chercher comme ça. Alors que, réellement, il y en a des problèmes beaucoup plus graves en France. Et même d'ailleurs. Hein. En plus, c'est pas fait méchamment. C'est de l'intérêt qu'on porte à ma culture, qu'on porte à mon pays. C'est positif. Puis c'est vrai, dans le fond, qu'on est des gens agréables, accueillants et sympathiques. Donc, pourquoi est-ce que ça vient me chercher? Ben, la réponse, au final, est très, très simple. Parce que j'ai envie d'être autre chose que ça. Un peu comme un chanteur à qui on demanderait de toujours chanter la même maudite chanson qu'il a pondue dans les années 2000. Je suis Camaro avec Femme Like You. Le gars a sorti un album en 2018 et si tu le croises dans la rue, tu vas lui dire « Donne-moi ton cœur bébé, ton corps bébé, yeah ». Et pas besoin d'être ceinture noire en empathie pour comprendre que au final, ça peut être un peu chiant. Bon, pour en revenir aux accents, je pense que si pour un rôle, on me demande d'en faire un, je pourrais m'entraîner pour développer ça, mais en match d'impro, je n'y arrive pas. J'ai un total blocage. Et je crois que c'est le caractère humoristique du match d'impro qui crée ça. Chez moi, parce que les improvisateurs et les improvisatrices, on a différentes approches, différentes envies puis de plaisir en patinoire. Moi, je suis un joker, je suis un fou du roi, un puncher, appelle ça comme tu veux. Mon fun, c'est de trouver ce qui me lie au public en termes de références, de caricatures, etc., etc. J'aime ça partager des trucs avec le public pour qu'on puisse en rire tout le monde ensemble. Comme si j'étais une soirée entre potes et qu'on était tous autour d'un même verre de ce que vous voulez dedans. Et le problème avec les accents, c'est que j'ai toujours trouvé ça réducteur. Comme mon Camaro. L'allemand va toujours être un militaire un peu border. L'italien sera toujours soit mafieux, soit sexy. Eux sont hyper chanceux parce qu'ils ont une palette plus large. L'asiatique va toujours connaître 2-3 passes de kung-fu. Bref, l'accent n'est pas là pour contribuer à l'histoire, mais pour faire un crochet humoristique avec ton public. Et c'est ça le problème. C'est qu'au moment où il y a un accent qui sort, on n'écoute pas ce qu'il dit, mais comment il le dit. Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il le fait pas bien? Le public décroche de l'histoire et de la construction mutuelle pour avoir le focus sur un joueur. Et ça, j'en appelle à tous les arbitres de France qui nous écoutent. On appelle ça un cabotinage ou un cliché. Malheureusement, c'est trop peu sifflé. Voilà, c'était un peu le coup de gueule. Maintenant, on va essayer quelque chose de pragmatique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On le fait pas par racisme, du moins j'espère, et on le fait pas parce qu'on est foncièrement méchant. Encore une fois, je l'espère. Juste, ça fait rire le public. Et si ça fait rire le public, c'est que c'est validé par la plèbe. Je suis pas en train de dire, faites pas l'accent anglais, d'un coup qu'il y a un British dans la salle, il va pleurer. Non, c'est pas un appel à la bienveillance toxique, juste au pragmatisme de construction. On dit toujours en impro, si t'amènes une information, c'est pour de la construction, pour faire avancer l'histoire. Sinon, c'est une pénalité. Ben, c'est la même chose avec les accents. On a tout de même une catégorie de joueurs et de joueuses qui ont, pour moi, une carte joker là-dessus. C'est les novices, ceux qui commencent, ceux qui ont besoin de s'accrocher aux clichés qu'ils maîtrisent pour construire leur confiance scénique. Juste, à partir du moment où tu gagnes de l'expérience, je crois que jouer la carte humoristique des accents non pertinents, c'est comme jouer au bowling avec les petites barrières quand t'es adulte. Oui, tu strikes, mais bon, on t'a quand même grandement facilité la tâche. Quand on a de l'expérience en impro, faut explorer d'autres choses. Faites un médecin qui s'appelle Abdel. Faites un Xiangli qui a une animalerie et qui ne dirait pas qu'il mange les invendus pour faire... pour ouais, c'est ça. Ou faites un Américain qui aurait au moins un niveau brevet. Je suis canadien, j'ai le droit de la faire celle-là. Bref, au bowling, comme dans la culture, c'est plus intéressant quand on enlève les barrières.
Merci beaucoup Charles, est-ce que tu as peut-être des actualités te concernant qui arrivent dans les prochaines semaines ou...
Ben, voyez, dans le monde de l'impro, c'est assez tranquille, mais c'est des événements qu'il faut absolument absolument assister. Donc vendredi cette semaine, on a les Improfolies et Impro Trélazé qui sont en deux endroits différents. On a les Folies Angevines, justement les Improfolies, et Impro Trélazé va être au Kiff, pour un Kiff de Trélazé, qui est un bar-restaurant, pour faire un spectacle de cabaret. Les deux, c'est à 19h30. Vous choisissez ce que vous préférez. Et c'est samedi que c'est vraiment très très chouette parce qu'avec ma compagnie Les Expressos, on est retourné au charbon, on est retourné, on a mis les mains dans le cambouis et on sort notre nouveau concept qui s'appelle Archi, où le public va être amené à construire le décor dans lequel nous, on va improviser. Ça se passe dans les caves de Loire de Mnacus, route Vauchretien à Brissac. Il y a deux représentations à 15h30 pour les enfants, qui s'appelle Archimousse, et on en a une à 20h30 pour les adultes, voilà, qui s'appelle Archie, je l'ai dit. Jeudi, la semaine prochaine, dans les impros Folies ou Folies Angevines, on a le concept Même pas peur à 20h. Les Expressos toujours seront de retour au Joker's Pub pour leur mensuel l'apéro impro à 19h. Et samedi 21, 21, on sera au Welsh avec la Lima à 20h.
Eh ben, on n'aura pas de quoi s'ennuyer pour les prochaines semaines qui arrivent. Et pour nous, c'est déjà la fin. Pour Topette, on va dire un dernier au revoir à nos invités. Mais peut-être avant tout ça, rappeler, on parlait tout à l'heure donc de la fête du court-métrage. On était avec Aurélie Dernoncourt, responsable de la médiathèque de la Renlou, et Suzanne et Corentin, étudiants tous les deux à la MFR du Cèdre. Alors Aurélie, si on résume brièvement ce qu'est la fête du court-métrage, comment on pourrait la qualifier? Raconter un peu ce que c'est.
Eh bien, c'est une multitude de projections à découvrir sur tout le territoire de Saint-Barthélemy d'Anjou, et on ne l'a pas dit, mais c'est sans réservation aucune et c'est gratuit, donc vous pouvez arriver sur tous ces lieux gratuitement et sans au dernier moment, et s'y prendre au dernier moment également.
Et quelles activités on va pouvoir retrouver peut-être en plus de ces projections, Suzanne?
Alors, on animera donc des animations et vous pouvez aussi vous désaltérer avec des boissons et manger des pop-corn aussi.
Et ben parfait, s'il y a de quoi se restaurer, et ben on ira. Il y a de tout. Alors, quels sont vos coups de cœur si vous deviez recommander à nos auditeurs quelques projections à voir avec peut-être des dates, Corentin?
Moi, je dirais qu'il faudrait aller au Village Pierre-Abbé le mercredi 19 vers 15h. Ça commence à 15h, ça se termine à 16h15 pour une projection pour les familles, donc environ pour les jeunes enfants de 5 à 10 ans. Mais toute la famille est conviée à cette journée.
Et vous, Corentin et Suzanne, où est-ce qu'on pourra vous retrouver sur ces festivals? Vous serez présents sur place?
Alors déjà, nous, on sera tous présents à la MFR du Cèdre, bien sûr, puisqu'on fait une projection le jeudi 20 mars à 15h45, qui pourrait être ouvert au public. Et on fait aussi, alors vous pouvez me retrouver, moi en tout cas, le samedi 22 mars à l'association Coucounage, qui est une résidence intergénérationnelle.
Et Corentin, où est-ce qu'on pourra te retrouver, toi? Tu seras au même endroit ou à d'autres?
Alors moi, je serai du coup au niveau des écoles avec vos jeunes, justement, jeudi matin à l'école Sainte-Marie-Saint-Guillaume, et je serai aussi également à la MFR du Cèdre le jeudi après-midi.
Et si on parle des autres actualités de la médiathèque de la Renlou, quelles sont les dates à retenir, Aurélie?
Eh bien, le jeudi 27 mars à 20h pour rencontrer Claire Vezin pour son roman Blanche.
Et les prochaines dates, l'atelier BD aussi, je crois, c'est
évidemment,
quand?
Le 26 mars à 15h et la rencontre-conférence d'Alain Jacobson le samedi 29 mars à 15h.
Et si on veut retrouver toutes les informations pratiques, peut-être les réseaux sociaux ou le site internet de la médiathèque?
Oui, tout à fait, on a à la fois un site internet et on est sur Insta et sur Facebook. Donc n'hésitez pas en tapant médiathèque de Saint-Barthélemy d'Anjou.
Pensez à bien réserver aussi pour les activités, contrairement à la fête du court-métrage. Peut-être qu'il y a un site internet aussi pour la fête du court-métrage?
Alors vous pouvez aller sur le site du Village Pierre-Rabhi où vous retrouverez toutes les informations, et peut-être au niveau...
Le site de la ville et également de Saint-Barthélemy d'Anjou, évidemment.
Et on rappelle que toutes les activités sont... Les projections sont gratuites et accessibles à tous, si je dis pas de bêtises. Et donc on donne rendez-vous à nos auditeurs à partir du 19 mars jusqu'au 25 pour découvrir tous ces courts-métrages et plein de projections. Nous, pour cette fin de semaine, et bien mercredi, on sera avec le CCJC pour parler du festival Couleur Chanson. Et jeudi, on sera en compagnie d'un forgeron de chez WeForge. Moi, je vous dis à demain et topette.
Pas pris d'amour. Je ne sais pas, je ne sais plus faire, je crois que j'ai passé mon tour. Trop frêle, trop court, pas plus d'amour. Ne me parlez plus d'amour, parlez plus d'amour. Jetez les moi les règles du feu. Je me suis brûlé les mains au jeu. Ne sais plus comment. Faudrait qu'on le dise avec les yeux. Moi je peux plus voir quand c'est pour deux. Pas pris d'amour. Je sais pas, je sais plus faire. Je crois que j'ai passé mon tour. Encore. d'amour.
Radio G 101.5 FM.
Savourez nos différences.